Merci, je pense que également doctorant en sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et également associé au centre Jacques Berck au Maroc. Vous allez nous parler des effets de la participation citoyenne à les projets urbains au Maroc, le cas de CNDH en milieu urbain, donc l'initiative nationale de développement urbain. Également, la seule femme de notre panel, enfin, en participant les intervenants, c'est Catherine Chabrol.
Donc je vais dans un premier temps vous dresser le cadre politico-administratif de la gestion des déchets au Sénégal et au Mali. Et dans la deuxième et dernière partie, donc, ce que j'ai appelé la constitution d'une élite plurielle de la participation. Donc c'est davantage mes résultats de recherche en fait, donc dans la deuxième et dernière partie. Mais avant de vous présenter ces deux parties, il faudrait que je vous présente le contexte dans lequel s'inscrit et se développe le principe de la participation en Afrique subsaharienne. Et donc c'est ce que je vais faire dans l'introduction, une introduction qui est divisée en trois parties, donc la problématique et l'intérêt du sujet, le modèle d'analyse et la méthodologie que j'ai choisi pour obtenir les résultats auxquels j'ai pu aboutir. L'intérêt du sujet. Donc il faut dire que la participation des acteurs non institutionnels, ce que j'entends par acteurs non institutionnels, c'est les habitants, les associations, le secteur privé, etc. Donc tous ces gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas dans l'administration classique. La participation donc de ces acteurs non institutionnels dans les affaires publiques de l'État, Et depuis les années, on va dire 60 ou les années 90, ça dépend du contexte où on se trouve, quelque chose qui est devenu, ou en tout cas qui est érigé comme une sorte de norme de gestion publique. C'est-à-dire que, si je prends le cas de la France, depuis les années 60, il y a une idée qui consiste à penser que les élus et l'administration ne doivent plus à eux seuls gérer les problèmes publics. Il faudrait ouvrir la sphère au secteur privé, aux habitants, et qu'on pourrait améliorer les services publics en faisant une telle ouverture. Et dans le contexte africain, c'est notamment dans les années 90, ce que j'ai appelé dans les années 90 que ce principe de participation va être promu, c'est-à-dire que il faut vous rappeler que dans les années, à la fin des années 80, dans le contexte de l'ajustement structurel qui a consisté à réformer l'État, qui a consisté à promouvoir un État minimal, on a eu comme alternative une promotion du secteur privé, une promotion du secteur associatif, parce qu'on pensait que l'État était trop endetté et que l'État n'était pas efficace pour continuer à jouer son rôle central et qu'il fallait ouvrir les services publics à d'autres acteurs, notamment ceux de la société civile, mais aussi les acteurs du secteur privé. Donc, deux exemples, c'est à titre indicatif, je peux vous donner deux exemples de ce contexte. C'est le cas des AGTIP. Donc, les AGTIP, c'est les agences de gestion des travaux d'intérêt public qui ont été promus à la fin des années 80. Donc, comme notamment les institutions internationales, en particulier la Banque mondiale et le FMI, ont préconisé un retrait de l'État, il fallait en contrepartie de nouvelles institutions pour prendre en charge la prestation des services publics. Et donc, les AGTIP, qui sont des agences qui ont un statut un peu d'ONG, ont été les institutions qui ont été promues pour faire le travail que faisaient avant les États. Il y a aussi ce que j'ai appelé la stratégie, enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé, mais ce qu'on appelait la stratégie du faire-faire. Donc, c'était une stratégie qui consistait à déléguer certains services à des associations, notamment dans le domaine de l'alphabétisation ou dans d'autres secteurs. Tout ça pour essayer de combler le retrait de l'État qui a été préconisé. Alors, pourquoi j'ai choisi d'observer ce contexte de participation dans le champ de l'environnement? Il faut dire que depuis le sommet de Rio de 92, la question de la participation dans l'environnement a eu beaucoup d'importance et beaucoup d'écho dans le contexte africain, et beaucoup d'associations travaillent sur ces questions. Donc j'ai trouvé que c'était un domaine où on pouvait voir un peu comment le modèle de la participation était, comment ce modèle s'était approprié, ou en tout cas quels sont les résultats auxquels il donnait lieu dans mes différents terrains. Pourquoi j'ai choisi les banlieues du Mali et du Sénégal? Je suis parti du fait que, parce que mon hypothèse c'était de dire que la promotion de la participation dans le contexte africain était davantage le fruit ou l'action des organismes internationaux ou des acteurs internationaux de manière générale, les ONG mais aussi les agences de coopération. Et donc en choisissant le Sénégal et le Mali, qui sont deux pays anciennes colonies françaises qui reçoivent beaucoup d'aide au développement et qui sont en coopération décentralisée ou coopération classique avec beaucoup d'associations françaises, j'ai trouvé que ça pouvait être un terrain intéressant pour voir ces thématiques. Et j'ai choisi les banlieues parce que justement la question de l'environnement se pose avec une certaine particularité dans les banlieues sénégalaises et maliennes. Le modèle d'analyse que j'ai choisi, donc je vais passer très vite puisque j'ai 15 minutes. Donc j'ai construit un modèle d'analyse parce que je me suis dit que pour comprendre les changements sociaux et politiques en Afrique subsaharienne dans le contexte actuel de la promotion de la participation, il fallait que je m'intéresse à la sociologie des élites pour essayer de voir quels sont les acteurs qui sont au cœur de ces changements. Donc je me suis aussi intéressé au courant des policy transfer studies, Donc, essayer de voir un peu dans le contexte de la circulation, de la transnationalisation des modèles de gestion aujourd'hui, comment tout ça se fait, à travers quel canal, à travers quelle échelle. Et le dernier courant dont je me suis inspiré, c'est celui de la sociologie de l'action publique. Donc, qui fait quoi dans ce processus que j'essaie d'observer. Et de manière plus concrète, j'ai eu à recourir à une méthodologie qui est une méthodologie assez classique, hein, donc une recherche documentaire, des observations semi-directives, des observations aussi parfois participantes, parce que j'ai eu à travailler avec certains acteurs, j'ai eu à passer des journées dans certains bureaux pour voir aussi un peu comment ça se passait. Il y a eu aussi une approche socio-anthropologique des rapports société et déchets, pour voir un peu quel est le statut ou quelles sont les représentations autour des déchets au Sénégal et au Mali, ce qui m'a permis de voir, de comprendre comment les déchets sont devenus aujourd'hui un enjeu à la limite, à la fois économique, politique. Hein, donc on est passé d'une représentation des déchets comme quelque chose dont il fallait se débarrasser, à une nouvelle représentation de valorisation des déchets, donc avec tous les enjeux qui vont naître autour de ces questions-là. Donc mon cadre, le cadre politico-institutionnel et réglementaire de la gestion des déchets au Sénégal et au Mali, il y a beaucoup de similitudes dans ces deux pays. Il faut dire que, pour aller très vite, la gestion des déchets est une compétence transférée, aussi bien au Sénégal qu'au Mali. C'est les collectivités locales qui, officiellement, ont en charge cette compétence. Mais le peu de moyens dont disposent ces collectivités territoriales, parce qu'il faut vous rappeler que la fiscalité locale au Sénégal et au Mali, c'est le gros problème. Les gens n'arrivent pas à mobiliser les ressources fiscales, ce qui fait que c'est des collectivités qui sont en grande partie dépendantes des subventions ou des aides extérieures, ce qui va donner un certain poids justement aux acteurs internationaux dans la promotion de modèles de gestion. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis là sur le Mali, mais sur le Sénégal, c'est assez similaire. On a un cadre politico-institutionnel où officiellement, c'est les collectivités qui doivent gérer, mais dans la pratique, il y a une pluralité d'acteurs qu'on va essayer de voir davantage dans la dernière partie. Donc là, c'est deux photos que j'ai à prendre au Mali. La photo à ma gauche, en fait, c'est des GIE. Les GIE, c'est les groupes d'intérêt économique. J'essaie de ne pas mettre ça dans la catégorie de ce que j'ai appelé le secteur privé, parce qu'il y a un secteur privé un peu plus grand que les GIE qui sont ce qu'on appelle ici peut-être l'auto-entrepreneuriat. C'est vraiment de très petites entreprises, de personnes qui s'intéressent à la question des déchets. Et de l'autre côté, c'est une décharge. Donc c'est pour montrer un peu que c'est réellement un problème au Mali. Au Sénégal, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est un cadre institutionnel et réglementaire assez similaire, hein, avec celui malien. C'est les collectivités locales qui doivent gérer, mais en réalité, on a une diversité d'acteurs qui sont sur le terrain. Donc là, sur ces photos, c'est des photos qui sont prises. Là, c'était au Sénégal. Ça nous permet, dans les 5 minutes qui me restent, d'arriver, je pense, à la partie la plus intéressante, puisque la première, c'était un cadre un peu théorique.
Je pense
là, c'est les résultats.
Sur les questions factuelles, ça reviendra dans la discussion si on a besoin de précision. Voilà. Le plus important, c'est peut-être le matériau empirique.
Tout à fait. Bien. Le matériau empirique, c'est ça. C'est-à-dire que les observations que j'ai faites sur la façon dont circule l'idée que la participation, c'est une bonne chose, et la façon dont les acteurs sur le terrain se l'approprient. Donc, cette observation a donné le résultat qui est là, c'est-à-dire que j'ai pu identifier ce que j'ai appelé des catégories de groupes d'élite. C'est pour ça que j'ai appelé ça une élite plurielle. Donc, j'ai distingué les acteurs politico-administratifs des leaders associatifs. Il y a aussi des autorités traditionnelles et enfin des entreprises privées. Donc, j'ai essayé de dégager un peu le rôle que joue chacun soit dans la promotion, soit dans l'appropriation du principe de la participation. Dans le cadre malien, donc à Bamako, comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début, c'est les élus locaux qui sont changés, qui sont censés s'occuper de la gestion des déchets, mais il y a les leaders associatifs, puisque c'est eux à qui est déléguée cette prestation, qui jouent un rôle important. Il y a des structures de concertation qui imposent leur façon de voir les choses à la mairie. Il y a les acteurs internationaux, parce que c'est eux qui financent, donc ils financent notamment quand les femmes doivent participer ou quand les associations de jeunes doivent entrer dans le jeu. Donc, ce qui fait qu'on n'est plus dans un cadre de financement classique, mais on est dans un cadre où le financement est suivi de recommandations d'un modèle de gestion. Les autorités traditionnelles, ça c'est très intéressant, parce que dans la décentralisation, dans les textes de la décentralisation, on pourrait croire que avec le fait que désormais on ait eu des autorités municipales, la chefferie traditionnelle a disparu. Mais non, aussi bien au Mali qu'au Sénégal, on se rend compte que la chefferie traditionnelle a toujours un grand pouvoir, et donc ils sont toujours consultés, et donc moi je les ai considérés comme des élites. Et les entreprises privées, notamment dans le recyclage des déchets, donc ils jouent un rôle déterminant. Là, on a des femmes qui travaillent pour une entreprise coréenne qui s'intéresse au recyclage des déchets. Et de l'autre côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est le rôle des ONG de développement. Là, c'est le Impact ENDA qui intervient là. Au Sénégal, c'est un peu la même chose. La seule différence qu'au Sénégal, le poids des acteurs internationaux dans ce que j'ai vu a été moins visible qu'au Mali, mais par contre ce qui a été très visible au Sénégal, c'est les concessionnaires, c'est-à-dire les gens qui ont les camions qui transportent les déchets, qui ont une association et qui jouent un grand rôle dans le processus de prise des décisions dans ces questions environnementales des déchets. Je vais conclure. Donc, la conclusion que je tire de ce que je vous soumets à discussion, c'est que la participation dans ce contexte subsaharien, c'est plus une offre politique qu'une demande sociale à la base, c'est-à-dire c'est des gens extérieurs ou des associations qui promeuvent cette participation sans qu'elle ne soit forcément une demande de la base. Et aussi, on assiste à la constitution de nouveaux contextes où les principes de la décentralisation et de leadership politique local sont remis en cause, c'est-à-dire que la décentralisation était censée donner un pouvoir aux autorités locales, mais on a parfois des chefs d'ONG ou d'associations ou un secteur privé qui sont tellement forts que parfois ils arrivent à contourner les élus locaux qui ne maîtrisent pas toujours l'agenda politique local. Et pour finir, c'est peut-être aussi une façon d'ouvrir le débat, c'est de montrer que si d'un côté le poids des promoteurs internationaux de la participation peut être analysé comme un frein à la décentralisation et à la constitution d'un véritable leadership politique local, de notre côté, il peut être aussi un moteur dans la mesure où les subventions sont devenues tellement indispensables dans l'émergence de cette décentralisation que finalement pour les élus, leur légitimité, leur crédibilité aussi, passe par la capacité à pouvoir coopter des aides, c'est-à-dire que celui qui arrive à nouer des relations avec d'autres villes dans le cadre de la coopération décentralisée ou à pouvoir intégrer d'autres réseaux internationaux pour avoir des moyens pour financer les services municipaux. Donc finalement, d'un côté, si ça peut être un handicap parce qu'il y a une certaine dépendance qui est créée, de l'autre côté, c'est un canal par lequel aussi on peut voir aujourd'hui la crédibilité et la légitimité des élus locaux. Voilà, je vous remercie et excusez-moi. Merci.
Merci d'avoir pris le temps. Donc je passe d'abord à Mustapha El-Nafsi.
Bonjour à toutes et à tous. La présentation de cette convocation ainsi que les effets de la participation citoyenne dans les projets urbains au Maroc, le cadre des initiatives nationales pour le développement humain et urbain, s'organise en quatre temps. Tout d'abord, je vais vous parler des choix de ce sujet, pourquoi j'ai choisi de travailler sur la participation citoyenne au Maroc. Ensuite, je vais présenter le point de départ de la recherche et le recentrage sur la problématique. Puis, je vais présenter rapidement mon terrain et la méthode adopté pour mener ce travail de recherche et enfin les résultats de cette présente recherche. Pourquoi ce sujet? La réponse est tout simplement liée à une demande démocratique qui insiste sur l'adoption d'un nouveau concept comme la bonne gouvernance, la démocratie participative, la démocratie délibérative et la participation citoyenne. Donc cette dernière est devenue une demande démocratique recommandée par les acteurs civils comme les partis politiques ou comme les associations de la société civile et les acteurs politiques comme les partis politiques. Au Maroc, ce nouveau concept a été introduit suite à l'arrivée du nouveau roi, en 1999. Lors de son arrivée au pouvoir, le monarque a fait un discours adressé aux responsables des régions, préfectures, provinces des royaumes, cadres de l'administration et représentants des citoyens, par lequel il a demandé aux cadres de l'État d'associer les citoyens dans les projets qui visent à régler leurs problèmes sociaux, administratifs, etc. Depuis ce discours, le concept participation citoyenne est devenu de plus en plus médiatisé au Maroc. Par ailleurs, l'administration marocaine essaye de promouvoir cette nouvelle manière d'impliquer les citoyens dans la création et la gestion des liens collectifs. C'est dans ce contexte de mutation que la participation citoyenne a émergé en Europe. Quel est donc l'objet de ma recherche? L'objectif de cette étude est de chercher à comprendre, d'une part, si la participation citoyenne constitue une transformation de la relation entre le citoyen et l'administration publique, et d'autre part, si cette participation transforme l'engagement des individus dans l'engagement civil vers un engagement politique. À vrai dire, je voudrais traiter la problématique des effets de la participation citoyenne sur l'action publique et sur les individus qui participent. Cette problématique rentre dans le cadre des travaux réalisés par la chercheuse française Laurence Béret, qui travaille actuellement au Canada. Celle-ci émet l'hypothèse selon laquelle les procédures participatives peuvent être analysées comme des instruments de politique publique au sens de Baston et Logares. Béret souligne que dans le but de démocratiser l'administration publique, les théories politiques proposent de développer la participation publique. Celle-ci est vue comme une façon de transformer la relation entre les citoyens et l'administration publique ainsi que le rapport au savoir. Donc, notre étude constitue une suite des travaux menés par cette chercheuse qui porte sur la multiplication des dispositifs participatifs dans l'action publique et aux effets de cette situation. Pour guider notre choix, nous partons de l'hypothèse selon laquelle la participation citoyenne à travers les structures de la société civile contribue à transformer les citoyens en acteurs véritables de la décision publique et que cette participation ne peut opérer que des transformations limitées et progressives en matière de politisation. Donc, pour expliquer cette hypothèse, j'ai observé 6 quartiers dans les villes de Rabat et de Casablanca, dans lesquels il existe une participation citoyenne dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain au milieu urbain. Cette initiative vise à lutter contre l'exclusion sociale dans les quartiers urbains classés défavorisés. Dans le cadre de cette initiative, les citoyens s'organisent et participent à travers des structures organisationnelles qu'ils ont eux-mêmes fondées, comme les associations et les coopératives. Pour le ministère de recherche, la méthode utilisée est celle de la démarche empirique, fondée sur des entretiens semi-directifs menés auprès des représentants des structures de la société civile et auprès des représentants des pouvoirs publics locaux. Quels sont alors les résultats de ce travail de recherche? Étant donné que cette étude vise à traiter la question des effets de la participation citoyenne, 4 axes sont mobilisés pour répondre à la question centrale de notre recherche. Le premier axe concerne l'organisation de la participation citoyenne dans le cadre de l'NDH au milieu urbain par les pouvoirs publics. En effet, afin d'organiser la participation citoyenne dans l'NDH, les pouvoirs publics adoptent une démarche intitulée diagnostic participatif. Il s'agit de déterminer quels projets sont souhaités par la population, d'identifier les groupes capable de les porter, de les réaliser et d'en tirer profit, dans mesure qui et dans quelle mesure les bénéficiaires peuvent contribuer à la mise en œuvre et à la gestion des projets. Par ailleurs, la démarche d'appel à activité facilitatrice vient compléter le dispositif de participatif. Cette phase permet d'entamer rapidement la réalisation concrète d'activités de l'NDH en milieu urbain sur le terrain, l'objectif étant d'accroître la confiance de la population dans la démarche participative de l'NDH. Cette démarche vient avoir notre dispositif de participation citoyenne, l'appel à projet, considéré par la plupart des acteurs avec qui nous nous sommes entretenus comme la procédure phare de la participation citoyenne dans cette initiative. En effet, celle-ci permet aux habitants des quartiers concernés de proposer un projet qui vise dans un premier temps à lutter contre l'exclusion des porteurs des projets et de leur environnement, et plus dans un second temps de le monter et enfin de le gérer. Le deuxième axe concerne l'investissement citoyen. Plus précisément, j'ai essayé de répondre aux questions suivantes. Qui participe à l'NDH en milieu urbain et comment? Les différentes structures organisationnelles observées créées par les citoyens ont la forme d'associations, de quartiers ou de coopératives d'économie sociale. Ces structures organisationnelles sont en effet le principal dispositif créé par les citoyens pour se mobiliser et participer dans des programmes de l'NDH en milieu urbain. La plupart des associations parmi celles que nous avons observées ont été créées avant l'instauration de l'NDH, c'est-à-dire avant 2005. D'autres ont été fondées après le lancement du CC. Les enquêtes de terrain que nous avons réalisées nous ont permis d'observer que les citoyens qui sont derrière ces structures organisationnelles ont un parcours hétérogène. Ils ont entre 28 et 56 ans. Certains parmi eux sont originaires des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'ils sont nés et ont grandi dans le même quartier où se trouve leur structure organisationnelle. D'autres viennent de quartiers dont la population appartient à la classe moyenne, c'est-à-dire ces derniers ont souvent fait un parcours politique pour sans au moins sympathisant ou ancien sympathisant de partis politiques. Ces citoyens que nous avons rencontrés ont un niveau d'études hétérogène. Certains ont une maîtrise en master, d'autres ont un niveau qui varie entre le niveau collège, baccalauréat ou bac plus 2. La plupart des personnes interviewées travaillent dans la fonction publique, d'autres sont diplômés au chômage. Enfin, une troisième catégorie de personnes n'a pas de diplôme académique mais professionnel. Une partie importante de ces citoyens engagés dans le travail associatif adopte un discours optimiste par rapport à l'arrivée des nouveaux rois et au chantier de l'NDH qui est avancé. Ils n'hésitent pas à le surnommer le roi des jeunes ou le roi des pauvres, notamment chez la catégorie des jeunes. Nous avons observé par ailleurs la présence de femmes porteuses de projets et présidentes d'associations de quartier. Dans certains cas, la majorité des membres des bureaux des associations présidées par des femmes est composée de femmes. Celles-ci se présentent comme une élite féminine instruite. Cette participation féminine dans l'action associative montre les mutations que connaît la société marocaine, notamment lorsque les femmes déclarent que l'NDH leur a accordé l'occasion de s'occuper et de contribuer à la vie des quartiers aux côtés des hommes. Nous observons donc une société traditionnelle en transformation avec des femmes qui s'investissent. L'image vient des hommes, peut-être de la famille royale, notamment de la femme des rois qui a pu avoir le droit de devenir une personnalité publique depuis l'arrivée du nouveau roi, Mohamed VI. En effet, à l'époque de l'ancien roi Hassan II, la femme des rois n'a pas été reconnue par le peuple marocain et ne jouait aucun rôle dans le système. Cependant, depuis l'arrivée de Mohamed VI, ce dernier a annoncé son mariage publiquement et sa femme préside une association à utilité publique de lutte contre le cancer. Donc cela a encouragé les femmes à s'engager dans l'action associative comme nous avons pu observer dans nos enquêtes de terrain. Le troisième axe traite des transformations que génère la participation sur la relation entre le citoyen et l'administration publique. En effet, les représentants des pouvoirs publics locaux que nous avons rencontrés soulignent que la participation citoyenne leur a permis de s'adapter avec un acteur qui a été ignoré auparavant. Ils confirment que la population concernée par un projet doit être consultée avant l'élaboration de celui-ci, car ce dernier doit être construit sur la base de leurs attentes. La mise en place des dispositifs participatifs a obligé le pouvoir public à adopter une approche basée sur un processus à son nom. Nous observons que les fonctionnaires de l'État concernés par l'NDH vivent sous le changement de leur rapport avec le citoyen. Ceci confirme qu'apparemment les décisions sont prises par les bureaux sans aucune consultation avec les citoyens. En revanche, suite à la mise en place des dispositifs participatifs dans le cadre de l'NDH, ces fonctionnaires confirment qu'ils sont invités à veiller à ce que les projets élaborés au niveau communal traduisent la volonté de la population. Donc, il est constaté qu'au suite à l'arrivée de l'NDH et de ses dispositifs participatifs, les hommes des pouvoirs sont devenus de plus en plus des hommes de développement humain. Dans ce cadre, les fonctionnaires de l'État jouent un rôle de facilitateur des tâches en faveur des citoyens associatifs. axe traite la question suivante. Quels sont les effets de la participation sur les individus civils qui participent? Selon ces individus qui participent dans l'NIH en milieu urbain, leur participation est une occasion d'apprentissage. Certains disent qu'ils ont appris ce qui se passe dans l'administration publique, car avant, ils n'avaient pas cette possibilité. Les citoyens associatifs disent que leur participation leur a permis de voir les choses de haut. Cela explique que les dispositifs participatifs pourraient être utilisés comme un instrument situé entre les mains des citoyens associatifs, afin d'exercer un contrôle sur le pouvoir public local. Cependant, à titre d'engagement individuel, la participation dans l'NDH en milieu urbain a permis aux citoyens associatifs de développer leur démarche d'action. Ils disent qu'ils sont passés des bénévoles au professionnalisme. En matière de changement d'engagement, certains citoyens associatifs soulignent que leur participation dans l'NDH en milieu urbain n'a pas changé leur engagement, car ils sont bien dans l'action civile. Ils justifient cela en disant que dans le domaine social, ils peuvent mieux donner et contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de leur quartier, tandis que le domaine politique n'en permet pas d'avoir cette marge d'action. Pour conclure, on peut dire que la participation citoyenne dans le cadre d'un village en milieu urbain a donné lieu à l'émergence de citoyens actifs avec un parcours hétérogène. Cette participation citoyenne a obligé au rapprochement entre les représentants des pouvoirs publics centraux et les citoyens. Nous avons donc observé que grâce à l'instauration des dispositifs participatifs dans l'NDH, une transformation s'opère progressivement dans la relation pouvoir public-citoyen. Cela nous permet d'assister à l'émergence de nouvelles associations et coopératives, ainsi que de citoyens qui s'engagent pour la première fois dans la vie associative. Je vous remercie pour votre attention.
D'imposition, c'est la même qu'on connaît, les panneaux d'hivernance. Donc, au Sénégal, la mise sur la mission des déchets, et puis en Europe, sur la mission de développement, de manière générale. Je ne sais pas si il y a d'ores et déjà quelques questions par rapport à ces deux communications qui se répondent pas mal, ou en tout cas qui abordent le sujet.
Moi j'en ai une sur le concept de participation dans le travail de M. Zeta, parce que a priori, alors après les concepts, on peut discuter de la définition, mais a priori on pourrait penser que de manière orthodoxe, que c'est une participation, réfère plutôt à. C'est pareil, on a un concept pour désigner l'élite, mais on n'a pas de concept aussi clair pour désigner le contraire de l'élite. Alors moi je parle de peuple, par exemple, de public, de citoyens, comme vous voulez, mais a priori, quand on utilise le concept de participation, on l'utilise par référence aux individus, aux citoyens, au public, au peuple. Or, ce qui est hétérodoxe, me semble-t-il, dans votre travail, c'est que vous l'utilisez par référence aux élites. Il me semble d'abord que c'est hétérodoxe et que c'est singulier, et que ensuite, dans votre conclusion, ça me semble devoir aboutir à un raisonnement circulaire, parce que votre conclusion consiste à dire que précisément dans ce cas-là, et à partir de postulat qui est le vôtre, la participation devient une offre politique et n'est plus en référence, il n'a plus de, je ne sais plus quelle était la phrase de votre...
Une demande sociale.
Voilà, il n'est plus une demande sociale. Donc, effectivement, si dans votre travail la participation n'est pas une demande sociale à la base, c'est peut-être justement parce que vous avez commencé par définir la participation par référence à l'élite et non pas à la demande sociale. Okay.
Oui, en complément à ce premier questionnement, je voudrais vous interroger sur la manière dont vous appréhendez l'émergence de la notion de participation dans ces différents espaces que vous étudiez. Et je ne perçois pas le lien que vous faites entre un certain nombre de processus endogènes et la problématique de la participation. Si on est évidemment d'accord sur la compréhension du transfert, en l'occurrence, au moment comme la conférence nationale pour le cas du Mali, est-ce que un processus comme celui-là n'a pas mis en la question de la participation, donc on demande des citoyens d'avoir une plus grande implication dans les processus étatiques. Est-ce qu'il n'y a que là une dimension de traversion à laquelle il faut s'en tenir lorsqu'on questionne une problématique comme celle-là?
Merci.
Oui, ma question, ça rejoint presque la première. Alors, dans ta présentation, tu as beaucoup parlé de l'identification de la. Non, plutôt de la participation à la gestion en matière environnementale. Mais moi, je me pose la question de la participation à la définition de la, des politiques en matière environnementale. Alors, est-ce que les acteurs, moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les acteurs intermédiaires, ceux qui sont à mi-chemin entre les acteurs institutionnels officiels et les citoyens ou la population. Est-ce que les acteurs intermédiaires ont une capacité d'influencer le contenu même des politiques de gestion des déchets en matière environnementale? Et bon, la question m'est venue comme ça, par rapport à ce qui se passe en Europe, en France ou dans d'autres pays européens, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même ce qu'on appelle souvent les lobbies qui influence quand même la définition des politiques, surtout en matière environnementale. C'est des questions très sensibles. Si je prends des ONG comme Greenpeace, qui opèrent un peu partout dans le monde, ou bien même des actions spontanées comme l'Odier Forêt ou les autres actions contre les OGM, on peut dire que, d'une certaine manière, ils participent au contenu même des politiques de gestion des déchets. Mais est-ce qu'en Afrique, on est arrivé à ce stade-là?
Vous pouvez répondre déjà.
Ouais. Ben, merci pour toutes ces questions qui nous permettent peut-être d'éclaircir davantage. Bon, par rapport à la première question sur pourquoi aborder la question de la participation comme une offre politique, alors qu'à la base, et surtout avec le concept d'élite, alors qu'à la base, elle était censée être pour, ou en tout cas à destination des masses, du public. Si j'ai bien compris votre question. Justement, le problème de la participation, dans le sens, parce qu'il y a plusieurs sens autour de la participation, justement, et la diversité des élites que j'ai essayé de dégager, c'est à partir des significations qu'ils donnent à la participation. Mais si nous prenons le cas de ceux qui conçoivent la participation comme un moyen pour les populations qui sont classiquement marginalisées, d'intégrer la sphère de prise des décisions. Moi, le constat que j'ai fait de mon terrain, aussi bien à Commune 1, à Bamako, qu'à Yamble, c'est que les résultats sont là. Ce n'est pas les personnes dites marginalisées à qui on demande de participer, qui participent. C'est un public qui soit avait l'habitude de participer via un autre canal, ou bien soit il avait un bagage intellectuel, c'est-à-dire ce n'est pas représentatif de la population de base. Par exemple, les gens qui ont monté les GIE dans le cadre de Bamako, c'est d'anciens étudiants, donc c'est des gens qui ont le niveau bac. Je ne sais pas combien ils sont au Mali à avoir le bac, c'est pas représentatif. C'est d'anciens étudiants en recherche d'emploi qui, au lendemain de la conférence de Rio, ont bénéficié de financements qui étaient là pour financer des gens qui étaient prêts à intervenir sur les questions environnementales, en prenant conscience du fait que les collectivités ne pouvaient pas à elles seules gérer cette question. Donc déjà, on a une offre politique qui est là, ce n'est pas une demande qui est partie de la base. Donc du coup, là, on a une participation qui, si on doit la comparer par exemple au cas français de manière on va dire schématique, en France, par exemple, moi, ma directrice de thèse, elle a étudié un peu le processus d'institutionnalisation de la démocratie participative en France, où on a montré le rôle des associations comme des acteurs qui ont été un peu à l'origine de cette demande à intervenir. Moi, ce n'est pas le sentiment, et en tout cas, ce n'est pas les résultats auxquels j'ai abouti dans mes deux contextes. C'est plutôt des gens qui étaient là pour financer des projets, pourvu qu'il y ait participation. Et c'est dans ce sens que, finalement, parce que l'élite, c'est celui qui a une certaine influence dans la production des politiques publiques. Donc, finalement, cette participation, ce n'est pas des populations à la base à qui, d'ailleurs, quand on les convoque aux réunions, ils ne viennent pas. J'ai été à des réunions de sensibilisation à Bamako où ceux qui n'étaient là, c'était que des étudiants ou des gens qui avaient l'habitude des associations. Donc, ce n'est pas du public ordinaire, ce n'est pas. Voilà, c'est des gens, c'est une certaine élite, c'est ce que moi j'ai appelé élite. Et donc je maintiens que c'est pas une demande sociale, c'est une offre.
Attendez-moi juste, je ne veux pas trop longtemps. Vous avez raison de maintenir. Je veux dire, votre démonstration, enfin, par exemple, dans ma thèse, j'ai mené la même démonstration. Et je, si je comprends bien, c'est ce que M. Nassini, la démonstration que vous menez également. Donc votre démonstration n'est pas en cause, elle est tout à fait juste. Et, enfin, si je peux me permettre, je pense que votre démonstration est juste à partir du moment où vous partez de la définition, je dirais, orthodoxe de la participation. C'est-à-dire que vous pouvez montrer qu'effectivement, vous pouvez critiquer le concept de participation et montrer que ce n'est pas une demande sociale à la base, si vous êtes bien parti de la définition de la participation comme demande sociale à la base. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? C'est-à-dire que votre démonstration est juste, mais elle est juste à partir du moment où vous partez de la définition orthodoxe, si je veux dire, de la participation.
Oui. La définition orthodoxe qui voudrait que ce soit une demande à la base.
Oui, c'est-à-dire que si vous partez de la définition de la participation comme demande sociale à la base et que vous montrez empiriquement qu'effectivement, dans votre cas, ce n'est pas une demande sociale à la base,
ah oui, donc
d'accord.
Okay. D'accord.
Voilà.
D'accord.
Okay. Je vais peut-être me faire la défense de Patrice qui n'a pas eu le temps, malheureusement, de présenter toute sa première partie qui revenait sur le contexte, effectivement, de quelles sont les réformes néolibérales, le contexte de privatisation des États, de tous les labels des politiques publiques qui sont imposées ou dictées. Et de ce point de vue, c'est vrai que vous êtes passé rapidement dessus et vous n'avez pas eu le temps de le dire. Donc je pense qu'après avoir précisé ça, la démonstration de cette lumière est plus valable. On va peut-être passer aux présentations de Fanny et Yacouba et puis on refera un tour de table, bien évidemment, ensuite. Fanny, je vous laisse la parole.
Ok. Bon, non seulement je vais la seule, mais je pense que je vais un peu m'écarter. Enfin, je sais, ben, on verra. Dans votre dur travail de... Mais moi, je vais vous parler du rôle des acteurs biomédicaux au Botswana dans la lutte contre le sida. Et donc, des acteurs biomédicaux, peut-être pour revenir sur la participation, hein, aux côtés des acteurs locaux de l'État botswanais, en l'occurrence. Dans ma thèse, donc, j'étudie à la fois... les pratiques de soins de mise sous traitement des patients séropositifs. Donc j'ai effectué une ethnographie hospitalière et aussi une ethnographie ou du moins un travail de sociologie politique des politiques de santé publique au Botswana que j'ai analysé donc à la fois sur le plan des politiques globales du médicament et puis des enjeux locaux de construction nationale et de citoyenneté. Voilà, et aujourd'hui, je voudrais proposer un peu quelque chose que j'ai fait dans ma thèse, mais que j'ai envie de continuer à travailler. Donc, ça sera peut-être un peu inabouti, ou peut-être un peu... Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, parce que du coup, je ne vais pas beaucoup parler de plein de choses que je dis dans ma thèse et qui vous interpelleraient peut-être. Et ici, en fait, ce que je vais essayer de faire, ça se rattache pas mal à l'axe 1 de l'appel à communication, hein, qui est... autour des modes d'appartenance africaine à la globalisation, des dynamiques transnationales, à la fois passées et contemporaines. Et donc j'ai envie de vous proposer justement à partir de mon sujet d'étude un peu un travail d'historicisation et puis une proposition un peu conceptuelle que je suis en train de formuler autour de cet objet donc du traitement biomédical, hein, de la médicalisation, de la prise en charge du sida, des enjeux de soins et de comment ces enjeux de soins et de traitement donc, de la population croisent des enjeux scientifiques internationaux et des priorités de développement d'un certain nombre d'acteurs internationaux. Et la façon par laquelle je vais procéder, c'est cette volonté d'historiciser des dynamiques transnationales dans le domaine de la santé publique sur le continent africain, et puis un peu d'éprouver la métaphore de l'expérimentation et de l'Afrique laboratoire, qui domine pas mal les études, enfin mon champ d'études. Et puis donc d'éprouver cette métaphore pour peut-être la dépasser et puis apporter un peu rendre compte plus des dynamiques d'extraversion qui me semblent à l'œuvre, et notamment de la façon dont les États, enfin en l'occurrence le Botswana, comment les sociétés africaines prennent part au cœur de ces développements, et y compris en ce qui concerne la recherche biomédicale. Voilà, donc dans le très court temps qui m'est imparti, je me limiterai à présenter donc quelques points empiriques et analytiques sur lesquels je suis en train de travailler. Alors la première chose, c'est de faire un point un peu ethnographique et empirique sur mon enquête. La deuxième chose, ce sera la réinscription historique du raisonnement, qui se prend en deux temps, bon, je préciserai après. Et puis après, c'est la troisième chose, c'est la proposition sociologique autour de l'idée de constitution de site attractif pour la recherche biomédicale et de quelque chose que j'essaie d'appeler l'attractivité des pays africains, des sites ou bien presque de l'Afrique contemporaine. Alors, quelques repères. Donc, cette communication est tirée de mon travail de thèse que je viens de soutenir il y a quelques semaines. Donc, je travaille sur le Botswana. Donc, quelques généralités sur le Botswana. C'est un pays qui est voisin de l'Afrique du Sud, qui, comme l'Afrique du Sud et toute la région, a été extrêmement ravagé par le sida. À la fin des années 90, c'est le pays le plus touché en proportion de la population, donc près de... des chiffres effroyables, hein, près d'un quart de la population adulte était séropositive. C'est également le pays qui est le premier à mettre en place un programme d'accès gratuit, donc gratuit, c'est-à-dire les patients vont à l'hôpital, les médicaments sont gratuits, y compris, je veux dire, l'accès aux soins est gratuit dans ce pays. C'est un pays qui a connu, donc qui a accédé à l'indépendance en 1966, qui a connu une transition assez douce, pacifique de la colonisation, et qui a assez tôt été envisagé comme une exception en Afrique pour son régime démocratique et puis pour ses accomplissements économiques, son développement axé sur l'extraction de diamants dans une trame développementaliste, c'est-à-dire le diamant profite à un développement national planifié. Et donc, évidemment, les soins de santé et face au sida se réinscrivent dans cette trame d'un État qui prend soin de sa population, c'est le titre de ma thèse. Donc voici l'interrogation, c'était vraiment comment ce pays a pu mettre en place un tel programme. Et donc, je me suis intéressée plus spécifiquement au rôle des acteurs de la recherche biomédicale aux côtés du gouvernement afin de faciliter l'arrivée des médicaments. Et donc c'est plutôt sur les enjeux que je vais discuter aujourd'hui. Comment en fait le Botswana a pu bénéficier d'un certain nombre de programmes avant les autres. Et pour cela, j'ai étudié plus spécifiquement le rôle de l'école de santé publique de Harvard, Harvard School of Public Health, qui est arrivé au Botswana en 96 pour effectuer des recherches virologiques, j'y reviendrai un petit peu si j'ai le temps, des recherches virologiques sur le virus, et puis qui progressivement est devenu un interlocuteur très important dans la mise en place du programme de soins, mais qui au départ était là pour faire de la recherche biomédicale. Et donc à travers cette approche un peu généalogique et autour de cet acteur, sachant qu'il y en a d'autres, il y a University of Pennsylvania, il y a un certain nombre de grosses universités, entrepreneurs de recherche clinique et biomédicale qui sont présents et qui ont des programmes de formation, des soignants. Enfin, disons que c'est brossé à grands traits, mais c'est un champ très important d'acteurs, de coopération qu'on appelle aujourd'hui les partenariats de santé globale. Voilà. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est comment la généalogie d'une constitution d'un site propice, d'un environnement favorable. Et mon idée au sujet de l'attractivité, c'est de montrer comment l'État également participe de cette dynamique en se mettant plus ou moins à disposition, en mettant en tout cas en conformité ses infrastructures, ses politiques, afin de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de programmes. Le programme phare, donc après la mise en place d'une coopération avec Harvard, c'est le fait d'avoir pu bénéficier d'un des premiers programmes d'accès aux médicaments, parce que je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que l'accès aux médicaments s'est fait très tardivement, alors que le continent africain était le plus touché. Il y avait, alors que les pays du Nord avaient accès aux médicaments à la fin des années 90, il n'y avait quasiment pas de médicaments en Afrique. Et en fait, bon, il y avait des raisons économiques et financières, les médicaments étaient trop chers, protégés par les régimes de propriété intellectuelle. Mais il y avait aussi des obstacles idéologiques et politiques. On ne voulait pas généraliser les médicaments en Afrique parce qu'on pensait que les Africains n'étaient pas capables d'être observants, que les infrastructures n'étaient pas suffisantes pour assurer cette généralisation de médicaments dont on a la crainte qu'ils soient généralisés de façon incontrôlée parce que ça peut générer des résistances, etc. Bon, on peut en reparler, mais disons que, en tout cas, il a fallu une intense mobilisation transnationale, mais aussi une transformation des enjeux, dont la recherche clinique. C'est-à-dire que ce que j'étudie à propos du cas de la coopération avec Harvard, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à mener des recherches cliniques, qui étaient leur activité principale, ou virologique, puis clinique et biomédicale, l'accès aux médicaments s'est imposé. Alors, je pense que vous avez probablement entendu parler d'un certain nombre de débats sur des essais cliniques qui étaient menés en Afrique en l'absence de traitement disponible. Donc ça a été toléré à un moment donné, puis à un moment donné ça a été considéré intolérable sur le plan d'éthique biomédicale. Et donc il y a eu un moment donné où un certain nombre d'acteurs, plutôt que de continuer à faire de la recherche clinique, ce qui était devenu impossible, impensable, ont œuvré à l'accès aux médicaments. C'est le cas de Harvard qui va aux côtés du gouvernement botswanais les aider à faire venir les médicaments plutôt qu'à continuer la recherche clinique. Bon, là j'empiète complètement sur ce que je dis après, mais comme de toute façon je vais être coupée, ce sera fait. Mais au début, ce que je voulais dire, c'était les éléments empiriques. C'est que, en fait, dans mon enquête ethnographique, j'ai parlé d'une enquête en terrain surinvesti, c'est-à-dire que c'est avéré que j'ai travaillé sur un objet qui était effectivement, donc le sida, la prise en charge par les antirétroviraux, qui était effectivement, là où je travaillais, l'objet d'un nombre inquantifiable d'études, et disons que j'ai vu qu'il y avait une convergence autour d'un site, et que moi-même, j'en faisais partie, bon, ça m'a pris quelques années de réflexivité pour mettre ça bien au clair, mais en tout cas, ça m'a aidé à reformuler mon sujet, à m'intéresser à la recherche clinique. Alors, ce que j'ai mis en évidence, c'est... et donc, oui, comment apparaît cette idée d'attractivité, c'est un peu une réflexion sur le terrain, mais que j'essaie maintenant d'en faire quelque chose moins. Hein. C'est une surveillante générale du centre de soins où je travaillais, quand j'avais voulu essayer de la solliciter pour un entretien, elle m'avait dit, tout le monde vient nous voir, on a aucun retour, nous sommes un centre d'attraction. Donc vraiment, j'ai l'impression d'un centre de soins où effectivement plein de chercheurs internationaux viennent, demandent des choses, arrivent, recrutent des patients, etc. Donc c'est le début un peu de ce travail de recherche qui, à partir de cette métaphore un peu ludique, hein, du centre d'attraction, ou du divertissement, la métaphore touristique aussi, que j'ai essayé de réfléchir à une façon à la fois réflexive et puis socio-historique d'en faire un fil heuristique. Hein. Et narratif. Alors donc c'est, là je le liste un peu, hein, c'est de dire que le traitement du VIH est à ce moment-là précis, avec la transformation des enjeux et des acteurs, un champ d'opportunité pour une grande diversité d'acteurs, hein, des grandes institutions biomédicales les plus réputées au niveau mondial, mais aussi un certain nombre de jeunes professionnels pour leur formation en médecine qui viennent exercer dans un hôpital africain touché par le sida. C'est une expérience qui est très valorisée dans un cursus de médecin aujourd'hui aux États-Unis et probablement en France aussi. Les interventions après biomédicales, dont je ne peux pas rentrer dans les détails, mais elles sont, j'ai essayé de montrer qu'elles étaient déterminées par l'accessibilité et la communauté. Et donc ça produit une accélération, une intensification de la recherche autour du VIH que j'ai étudié en étudiant les préoccupations des acteurs au sujet de cette intensification, à la fois des préoccupations de crainte, de saturation, de préoccupation au sujet de la valeur qui est extraite, elle bénéficie à qui, est-ce qu'elle est vraiment alignée sur les priorités de santé publique, etc. Mais aussi, donc, non seulement ces craintes, mais également, et souvent de la part des mêmes acteurs, ce qui est intéressant, la quête active d'être embarqué dans ce projet modernisateur d'infrastructures, de formation, de programmes, de développement biotechnologique. Et c'est là où j'essaie d'utiliser l'attractivité comme moyen de penser l'insertion de la recherche clinique au cœur des mécanismes de la dimension économique, c'est-à-dire comment c'est un projet, à la fois pour le Botswana, c'est un projet de développement national, quoi, de symbolique et politique, mais également économique, et qui est inséré dans un projet de diversification par rapport à l'économie du diamant. L'État botswanais est bien trop dépendant du diamant, et puis se rend compte qu'il y a un afflux de partenaires et d'investisseurs, entre guillemets, et que donc il peut se conformer et se mettre en conformité avec cette demande. Et donc c'est pour ça que je parle de politique de l'attractivité. C'est-à-dire que l'attractivité est également une politique économique de mise à disposition d'un territoire ou d'un secteur ou je ne sais quoi, avec des facilitations en termes de d'avantages fiscaux, etc. Donc j'essaie de penser un peu ça. Donc je passe sur le fait de dépasser la métaphore de l'expérimentation, parce que justement elle ne rend pas du tout compte. Elle est hyper intéressante dans le sens où elle permet de penser de façon historicisée ces dynamiques, c'est-à-dire la recherche biomédicale en Afrique, qui a toujours été sujette à des craintes, qui a toujours été à la fois de la recherche biomédicale et toujours aussi des enjeux de soins. Ça a toujours été corrélé, ça a toujours été des interventions très spatialisées, de création de sites, de plateformes, de recherche, où il y a toujours une très intense activité de recherche autour de sites et autour de pathologies, la maladie du sommeil au Cameroun. Et donc, voilà, ça m'a permis de vraiment réinscrire dans cette continuité de ces trois choses-là, spécialisation, et puis recherche biomédicale et enjeux de santé publique. Mais aujourd'hui, donc voilà, ça me permet de voir un peu comment... je parle d'attractivité un peu dans le prolongement d'une proposition faite par Jean-Pierre Dozon qui parle du binôme, enfin de la double contrainte d'attraction-répulsion du continent africain historiquement, la colonisation comme une entreprise de tombeau de l'homme blanc où tout le monde mourait, où c'était vraiment une entreprise marquée par la répulsion, puis la colonisation, la fructification, notamment au niveau de la biomédecine, où ça a été au contraire une période phare de bénéfices pour la métropole. Et puis après, il disait justement, quand il écrit cet article en 91, il disait que le sida est en train de faire rebasculer le continent africain dans les ténèbres, dans la mort, dans la catastrophe démographique. Et donc, du coup, avec tout ce que je propose là, c'était de dire, ben, en fait, effectivement, mais c'est probablement aussi en train de redevenir un continent très attractif pour l'intervention extérieure, l'investissement. Et donc, ce que j'avais envie de discuter aujourd'hui, c'est que cette proposition, donc, qu'on a bien vu, c'est une proposition en termes d'analyse de sociologie des politiques de santé, hein, pour moi en tout cas, c'est aussi pour une façon d'essayer de voir si on ne peut pas repenser un peu à travers ça la question de l'économie d'extraction, c'est-à-dire comment que le continent aurait, enfin, n'est pas complètement sorti de l'économie d'extraction, et que est-ce que sur les questions de santé publique, on peut continuer à étudier ça. Et la dernière chose, pour rebondir aussi sur ce que disait Pierre Boilet ce matin, y a un discours, mais qui est probablement lancinant aussi et qui revient comme sur cet imaginaire de l'Afrique comme l'Eldorado des investissements et comme dernier rempart de l'économie capitaliste, mais aussi comme air post-aide internationale, c'est-à-dire comme investissement étranger comme étant l'avenir, disons, en termes de développement et que justement le secteur de la santé, je trouve, illustre bien. Voilà, merci de votre attention, j'espère que c'était parfait. Merci.
Alors, nous allons avec vous. aux organisateurs de cette journée d'études, et bien sûr aux discutantes. Alors, ma communication porte sur le développement et la question de la gestion des finances publiques en Afrique, notamment le cas des États membres de l'UEMOA. Bon, je croyais qu'on avait 20 minutes, mais il va falloir faire beaucoup plus court. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre par aide publique au développement ou aide au développement? Alors, la question peut se poser parce que l'aide qui est le plus souvent dirigée vers les pays en voie de développement, et notamment vers les pays subsahariens d'Afrique, peut être d'origine et de forme variée. Elle peut être d'origine publique ou d'origine privée. Elle peut prendre aussi la forme de concours financiers ou de concours non financiers, comme l'assistance technique ou la coopération au développement. Alors, celle qui m'intéresse ici, c'est l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'aide fournie par les organismes publics. Alors, qu'il faut-il entendre par aide publique au développement? Bon, pour faire simple, selon le comité d'aide au développement de l'OCDE, l'aide publique au développement désigne tous les apports de ressources qui sont fournis aux pays et territoires sur la liste des bénéficiaires d'aide publique au développement ou à des institutions multilatérales et qui répondent aux critères suivants. D'une part, émaner d'organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou organismes agissant pour le compte d'organismes publics, et d'autre part, avoir pour but de favoriser le développement économique et l'amélioration du niveau de vie des pays en développement, et être associé les conditions favorables et comporter un élément de libéralité d'au moins égal à 25%. Bon, cette définition peut être discutée, mais je passe rapidement. Peut-être qu'on reviendra dans les questions. Alors, les réflexions qui sont généralement consacrées à l'aide au développement, l'analyse sous l'angle de sa légitimité, de son efficacité ou de son inefficacité, ou encore les conséquences économiques et sociales qu'elle entraîne au niveau des pays bénéficiaires. Alors, ce que je propose ici, c'est un autre angle d'analyse de l'aide au développement, notamment par rapport à la question de la gestion des finances publiques. C'est la question de savoir quels sont les effets, quel est l'impact de l'aide au développement sur le droit et la qualité de la gestion des finances publiques des pays bénéficiaires. Donc, je m'intéresserai aux pays membres du UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, c'est une organisation d'intégration sous-régionale ouest-africaine qui regroupe tous les États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, qui sont tous des pays francophones, et un pays lusophone, la Guinée-Bissau. Donc, pour examiner cette question, j'adopte un plan dialectique, à savoir que on peut constater que l'aide au développement contribue à l'amélioration de la qualité de la gestion des finances publiques, et ça sera la première partie de ma communication. Et d'autre part, on peut aussi soutenir que l'aide au développement est un facteur de contrainte à l'égard des finances publiques des pays qui bénéficient de l'aide au développement. Alors, voyons dans une première partie en quoi l'aide au développement participe de la qualité de la gestion des finances publiques des pays bénéficiaires. Alors, on sait que depuis les indépendances, les États en développement, et particulièrement les États d'Afrique subsaharienne, ont établi des relations de coopération financière avec des partenaires multiples, des partenaires d'abord bilatéraux, puisqu'à l'origine l'aide était surtout bilatérale, et ensuite des partenaires multilatéraux. Après le plan Marshall, on sait que l'OCDE s'est transformé en OCDE et participe aussi à la fourniture de l'aide au développement et aussi un certain changement de la mission des institutions de Bretton Woods qui fournissent aussi l'aide au développement à l'égard des pays africains. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant la liste des partenaires financiers des États africains. Alors, et concernant la participation de l'aide au développement à la qualité de la gestion des finances publiques en Afrique, on peut distinguer principalement deux étapes. La première étape est celle qui va de l'indépendance des années 60 jusqu'aux années 80. Alors, et la deuxième étape, c'est celle qui commence à partir de la fin des années, du début même des années 80 jusqu'à nos jours. Alors, dans la première étape, ce qu'on peut constater, c'est que l'aide au développement n'influençait pas en tant que tel le droit ni la qualité de la gestion des finances publiques dans les pays bénéficiaires. Alors, je m'explique. Alors, en fait, pendant cette époque, on sait qu'après les indépendances des années 60, le principal souci des États africains, c'était bien sûr le développement économique et social. Donc, un besoin d'infrastructures, de développement économique et social. Et l'action financière à travers l'aide au développement consistait seulement en la fourniture de financements pour les investissements, pour des projets d'investissement, la construction de routes, d'infrastructures de communication, voilà. Et l'aide n'intervenait pas en tant que telle sur la manière dont les États gèrent les finances publiques. Donc, en d'autres termes, l'aide et les organismes d'aide n'influençaient pas les règles et les procédures de gestion des finances publiques. Alors, quelques repères aussi peut-être, c'est que pour la plupart des États africains, après la colonisation, les règles de gestion budgétaire, ce sont les règles de l'ancienne puissance coloniale. Hein. Pour les États francophones, ce sera les règles de gestion des finances publiques qui étaient en vigueur en France. D'abord les droits coloniaux, droits financiers coloniaux, puis après la colonisation, ce sont les règles de gestion budgétaire en vigueur en France, à savoir l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et le décret comptable du 29 décembre 1962. Donc, ce sont ces règles en fait qui sont reprises par la plupart des États africains, notamment francophones. Alors, il y avait peut-être deux spécificités, c'est surtout l'importance apportée au budget d'investissement ou de développement, à travers, qui est surtout financé par l'aide au développement, notamment, et aussi la qualité du ministre des Finances en tant que coordonnateur principal unique du budget de l'État. Ce sont les deux spécificités notables. Alors, mis à part ces spécificités, l'aide au développement n'influençait pas en tant que telle la gestion des finances publiques, sauf d'un point de vue financier. Alors, donc c'est à partir des années 80, suite au déséquilibre macroéconomique et à la crise des finances publiques que les États africains ont connue, que les organismes multilatéraux, notamment le FMI et la Banque mondiale, vont intervenir maintenant du point de vue des politiques de gestion des finances publiques, à travers notamment ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Alors, ça s'est traduit notamment par des mesures comme la réduction du nombre de fonctionnaires, la réduction des salaires, la réduction des subventions de l'État et la réorientation même des dépenses vers des secteurs sociaux beaucoup plus prioritaires. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des États membres du mouvement, les 8 États membres que j'ai cités, ont été soumis plus ou moins à des programmes d'ajustement structurel, certes à des périodes différentes, mais ils ont été soumis à ces programmes d'ajustement structurel. Alors, donc, c'est véritablement à partir de la fin des années 80 que, à travers le mécanisme de l'aide au développement, les organismes d'aide vont maintenant influencer la politique de gestion des finances publiques dans les États africains. Alors, deux phénomènes nous permettent d'illustrer cela. Il y a d'abord, dans un premier temps, les organismes internationaux, notamment les FMI et la Banque mondiale, vont élaborer ce qu'on appelle des standards de bonne gestion, de bonne gouvernance. Alors, on sait que l'ouverture, la perspective libérale des années 90 ont changer la politique des institutions financières internationales qui vont poser de nouvelles conditions à l'aide et qui vont s'intéresser aux questions institutionnelles, de bonne gouvernance et qui vont élaborer des standards de bonne gestion à l'adresse des États qui sollicitent les concours financiers. Alors, juste quelques exemples. Hein. En 98, la Banque mondiale a publié un manuel sur la gestion des dépenses document de référence qui définit les principes et les bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. Alors, vous parlez du cas du Botswana, j'ai remarqué effectivement que le Botswana est cité dans ce manuel comme un exemple de pays qui pratique, qui a de bonnes pratiques en matière de gestion économique et financière. Alors, le FMI aussi a adopté des normes de gestion des finances publiques à travers son manuel de statistiques des finances publiques, dont la première version remonte en 1986. Alors, ces documents ne sont pas des documents juridiquement contraignants, mais néanmoins, ils influencent la gestion des finances publiques, puisque les États qui veulent solliciter l'aide des institutions financières sont presque obligés de s'adapter aux standards qui sont définis pour pouvoir bénéficier des concours financiers à travers l'aide internationale. Alors, le deuxième cas illustratif que je n'aurai malheureusement pas le temps d'examiner, c'est la réorientation même du modèle de gestion des finances publiques. Alors, ça s'est traduit notamment à la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés, de l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. C'est à travers ces initiatives que les organismes d'aide vont élaborer un nouveau paradigme de gestion des finances publiques, ce qu'on appelle la gestion axée sur la performance et les résultats, qui va se substituer au modèle jusqu'alors en vigueur dans les États africains. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, je passe rapidement à la deuxième partie de ma communication que je vais survoler. Alors, ça concerne l'autre aspect de l'aide au développement, c'est le problème des contraintes de l'aide publique au développement. Alors, je disais que l'aide présente des avantages, mais présente aussi des inconvénients. Alors, ces contraintes peuvent être regroupées en deux séries. Il y a d'abord des contraintes d'ordre financier. Alors, les contraintes d'ordre financier, et surtout la question de l'endettement. La question de l'endettement, c'est une question récurrente actuellement avec le problème des dettes souveraines, mais c'est un problème qui s'est posé avec rapidité dans les États africains après les programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire à partir de la fin des années 90. Bon, les prêts massifs qui sont arrivés à échéance devaient être remboursés et il est arrivé que des États effectuent des transferts négatifs à l'égard de pays industrialisés, ce qui a posé bien sûr un problème au niveau éthique et même une certaine indignation au niveau international, ce qui a été bien sûr à l'origine des initiatives que je voudrais endetter, initiatives d'allègement de la dette multilatérale pour annuler au moins partiellement la dette de certains États. Alors, le deuxième problème financier, c'est la question de l'imprévisibilité de l'aide. Alors, ici, la question se pose parce que les bailleurs de fonds, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, n'ont pas toujours la même politique. Alors, il y a des bailleurs qui font ce qu'on appelle la conditionnalité d'instruments, c'est-à-dire qu'ils définissent pour bénéficier de l'aide, voilà telle mesure que vous devez engager, voilà telle réforme que vous devez faire. Puis, à partir de la fin des années 90, il y a des bailleurs, surtout de l'Union européenne, qui a introduit ce qu'on appelle la conditionnalité de performance. Pour bénéficier de l'aide, vous devez atteindre tel niveau de performance. Et il y a des indicateurs qui sont définis. Donc, du coup, il y a une discordance du point de vue de la pratique même des conditionnalités. Alors, donc, si vous n'atteignez pas ces indicateurs, vous ne bénéficiez pas de toutes les promesses d'aide qui sont faites à travers la signature de convention de financement. Alors, donc, ce qui crée une certaine insécurité financière du point de vue des États. Alors, la deuxième série d'effets néfastes de l'aide, c'est ce que j'ai qualifié d'effets de contraintes d'ordre juridique. Alors, par là, ce qu'il faut entendre, c'est le fait que l'aide participe d'abord à la fragilisation des règles et procédures de gestion des finances publiques dans les États bénéficiaires. Alors, je parlais tantôt des pratiques discordantes de conditionnalité. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que les bailleurs de fonds, pour contourner les procédures normales de gestion des dépenses publiques, alors tout le monde sait que la procédure normale de gestion des dépenses publiques est une procédure contraignante, puisqu'il y a des règles à respecter, l'engagement, l'ordonnancement, liquidation, paiement, bon, ça c'est la procédure normale. Les bailleurs de fonds créent des agences ad hoc de gestion des projets qu'ils financent. Donc du coup, ce qui contourne les procédures normales de gestion des finances publiques des États et ce qui fragilise aussi ces procédures et les institutions financières des États et ce qui participe aussi de la fragilisation des budgets des États, puisque tous les financements ne sont pas toujours référencés dans les budgets des États. Donc du coup, on n'a pas une certaine vision exhaustive du budget des États. Alors, je vais conclure, hein, il me reste une minute à peine. Alors la deuxième difficulté d'un point de vue juridique, alors je parlais tantôt de la conditionnalité de performance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conditionnalité de performance est devenue même actuellement le modèle de gestion des finances publiques dans les États africains. Par le biais notamment de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les règles qui étaient au début imposées par les bailleurs de fonds sont devenues des règles endogènes en quelque sorte, puisque l'UEMOA a adopté depuis 2009 des directives communautaires qui adoptent ces modèles de gestion des finances publiques. Donc du coup, actuellement, effectivement, la difficulté pour les États, c'est d'internaliser ces directives et d'adapter en fait cette logique de gestion par rapport à leur contexte. Alors, sachant que la lancinante question pour les États africains, c'est la question des capacités matérielles, humaines, etc., pour mettre en œuvre ces réformes. Alors, pour conclure, on peut effectivement observer que l'aide au développement présente des avantages pour les pays bénéficiaires. Alors, le principal avantage des financiers, c'est l'effet de stabiliser et de participer à la discipline des comptes publics. Mais, bien sûr, l'aide comporte des effets néfastes. C'est bien sûr la question de l'endettement qui se pose actuellement, même pour les États industrialisés, hein, et avec la crise. L'aide au développement tend à diminuer et la question de l'endettement des pays africains reste toujours posée. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce sont des États qui dépendent beaucoup de l'aide au développement. Ce ne sont pas des États qui ont accès au marché financier pour emprunter. Donc, du coup, la question de l'endettement pose effectivement un grand problème. Alors, pour répondre à la question que je m'étais posée, à savoir la question de savoir est-ce que l'aide participe à la qualité de la gestion des finances publiques ou non, je dirais que la réponse est mitigée, ça dépend si on est optimiste ou si on est pessimiste. Alors, mais au-delà, ce que je trouve très intéressant, c'est la question de l'aide au développement, c'est la question de la dépendance de l'aide au développement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que les États africains peuvent se passer de l'aide au développement? Parce qu'un État qui dépend déjà de l'aide au développement, est-ce qu'il n'a pas perdu sa souveraineté? Sachant que c'est des États qui n'ont pas accès au marché financier pour compenser. Voilà un peu le contenu de ma communication. Je vous remercie de votre attention.
Dans les références bibliographiques
entre chacun de vos papiers. C'est-à-dire que, évidemment, hein, les politistes, donc si j'ai bien compris, les deux premiers intervenants mobilisent l'ensemble de la bibliothèque sur l'action publique, sur la participation, etc. L'anthropologue mobilise Dozon, Ferguson, etc. Et vous, juristes, mobilisez évidemment aussi une bibliothèque quasi exclusivement, me semble-t-il, juridique et sur la gestion publique, économique également. Donc c'est évidemment pas un reproche, mais c'est vraiment très... Enfin, je trouve que ça l'idée de faire se rencontrer ces différentes disciplines et, trouve tout son intérêt ici, parce que sur une même thématique, on a vraiment des références qui dialoguent peu. Et donc, en tout cas pour moi c'est intéressant, je vous invite à creuser les références de vos co-intervenants, parce que voilà, ça permet d'élargir vraiment les focales disciplinaires de chacun des intervenants. Donc finalement, les modèles ou les normes voyageraient plus que les bibliothèques. Bon, et en tout, c'est à peu près la même chose pour les méthodologies employées, bien sûr. On a beaucoup plus d'incarnation ethnographique, évidemment, chez l'anthropologue, et de la mobilisation de textes juridiques chez vous, etc. etc. Mais là aussi, c'est justement intéressant de voir ce qui peut circuler entre les disciplines. Notamment, par exemple, je pense que sur la question de la participation, les politistes mobilisent plutôt l'entretien, et je pense que la question d'observation de ces dispositifs participatifs, notamment dans votre cas, je pense que je reviens là-dessus, pourrait enrichir très largement les analyses, aller au-delà de ce que disent les acteurs sur leur propre participation, qu'ils enchantent le plus souvent, alors que lorsqu'on observe des dispositifs de participation, on voit bien que tout le monde ne parle pas, tout le monde ne participe pas de la même manière, etc. Donc, évidemment, des disciplines un petit peu cloisonnées, mais sur des thèmes qui ont été fédérateurs, justement, dans ces différentes disciplines. Alors là, on n'a pas d'histoire, d'historien, mais c'est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup d'histoire connectée, d'histoire globale. Chez les politistes, on fait des policy transferts que Patrice nous a rappelé, on parle de circulation des modèles. Chez les anthropologues, évidemment, on parle d'anthropologie de la modernité et de connexion du rapport à l'autre dans cette globalisation. Donc finalement, c'est des questionnements qui sont absolument convergents, mais qu'on a du mal à faire discuter. Donc bon, l'intérêt ici, c'était d'avoir, je pense, ces quatre papiers pour montrer toute la richesse de ces discussions possibles. Alors, deux points qui me semblent converger dans cette thématique de la connexion, de la transnationalisation, de la circulation, c'est le fait qu'on est à peu près tous d'accord pour dire désormais qu'il n'y a pas une imposition d'un modèle sur un autre, en gros du nord au sud, même si on peut très bien parler d'inégalité structurelle entre le nord et le sud, hein, mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a des usages politiques internes, locaux, de ce qui vient de l'extérieur. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Et je trouve que c'est bien montré dans chacun des papiers. Ce qui est un peu plus difficile, me semble-t-il, dans les analyses de la circulation, c'est, et sur lesquelles je pense que chacun pourrait creuser un petit peu, c'est d'essayer de faire tenir ensemble justement, ce qui fait la spécificité de la circulation, c'est-à-dire pas juste une imposition, mais quelque chose qui voyage avec des retours, avec des effets retours aussi de ce qui a été imposé, si on utilise le terme, du nord au sud. Et justement, c'est ce qui fait un peu l'intérêt de la notion de circulation, c'est que ça voyage, il y a des effets retours, des détours également. Et ici, mais bon, on ne peut jamais tout mettre en communication, bien sûr, mais chacun a plutôt insisté sur un aspect, sans forcément voir vraiment cette dimension circulatoire. On voit bien le voyage dans le papier sur le Botswana dans le vôtre, en tout cas cette imposition. On voit davantage les appropriations, les usages locaux dans les deux papiers sur la participation. C'est vrai que n'est pas vraiment mise en valeur, les effets retours, qu'on voit pourtant, vous venez d'indiquer que dans les manuels de bonne pratique, on trouvait le Botswana. Donc je trouve que c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que ce qui s'expérimente dans les pays qui sont dits laboratoires, etc., finalement on revient dans les organisations internationales ou chez ceux qui concoctent ces manuels pour ensuite être exportés autre part en Afrique. Et donc ça, je pense que ça, c'est un point vraiment important. Et on voit de même cet effet retour chez Fanny Chabrol. Lorsque vous voyez très bien l'effet qu'ont eu tous les débats sur les essais cliniques très contestables, il y a eu des débats et donc ça a changé la manière dont l'intervention médicale occidentale s'est construite par la suite. Donc là aussi, on a eu quand même ces effets. Alors, je vais juste mettre l'accent sur quelques thèmes communs, juste pour inciter en fait chacun à souligner un petit peu dans ses propres papiers ces différents thèmes qui me semblent importants quand on étudie la circulation. Bon, d'abord, évidemment, la question de qu'est-ce qui circule. Qu'est-ce qui s'impose. Et là, je trouvais que c'était assez intéressant dans votre cas, puisque vous montrez bien qu'on impose du droit, mais qui n'est pas vraiment du droit. Ce sont des directives, des manuels, des techniques, et finalement, à la fois c'est contraignant, et finalement ça ne l'est pas assez, parce que si c'était dans la loi, au moins tout le monde serait d'accord sur ce qu'il y a à faire. Forme de consensus ou d'homogénéisation des normes de gestion budgétaire. Or là, on a un droit un peu flou, enfin je ne sais pas comment on dit, mou. Et du coup, à la fois il est contraignant et pas assez, si j'ai bien compris. Donc je trouvais très intéressant dans votre papier, parce que c'est un papier de juriste, de réfléchir voilà, à la teneur de ce droit qui circule ici. Un autre point, donc après qu'est-ce qui circule, sur la question de l'histoire de la circulation, je trouvais que c'était très bien mis en valeur plutôt dans le papier de Fanny Chabrol, hein, sur l'idée de l'Afrique comme laboratoire, mais comme un laboratoire à la fois attractif et puis comme laboratoire. Le laboratoire, c'est aussi l'objet de la critique. On critique cette idée d'Afrique laboratoire, mais en même temps, c'est aussi une opportunité. Et on voit bien qu'au travers du temps, ce registre-là est utilisé différemment, puis on voyait aussi bien dans votre papier sur l'évolution de l'influence de l'aide sur la question de la gestion budgétaire. Alors il y avait un point sur lequel je voulais revenir sur la question de l'histoire de la participation qu'il me semble que vous n'avez pas mentionné. C'est le fait qu'effectivement l'injonction participative, elle apparaît surtout à partir des années 80-90 par l'intermédiaire des nouveaux des réformes de l'action publique, etc. Mais en fait, il me semble que l'injonction plutôt participative, elle est très ancienne dans les politiques de développement. C'est ce que montrait sur le populisme bureaucratique, le fait qu'on a toujours oscillé entre l'injonction à la participation, puis à partir du moment où ça devenait plus gérable, c'était recentralisé, et puis on remettait un peu de participation, et c'est vrai qu'on le voit dans toutes les tendances de l'aide au développement, on a oscillé entre l'un et l'autre. Donc je pense que parallèlement à cette importation ou à cette circulation des modèles d'action publique des années 80, il y a quelque chose qui est spécifique aux politiques du développement, et qui pourrait peut-être être confronté à l'histoire de cette circulation liée à la réforme de l'action publique. Un autre point commun à tous, sur lequel vous insistez plus ou moins, c'est la question de l'analyse sociographique certains appellent courtiers, intermédiaires, traducteurs, etc., selon une tradition disciplinaire. Alors, il me semble qu'il y a juste Fanny qui a mis l'accent sur les intermédiaires du Nord. Hein, c'est intéressant de voir que pour les chercheurs d'Harvard, ça fait partie maintenant du cursus hein, d'aller faire la mission humanitaire au Botswana. Et c'est intéressant parce que moi j'ai étudié les avocats les juristes de Harvard donc, sur les questions des droits d'homme, eux aussi, ça fait partie maintenant de leur cursus, hein, d'aller quelque part au Kenya ou autre.
Ça fait pas humanitaire non plus, hein, justement.
Oui, oui, non, c'est pas humanitaire, non, mais faire des droits d'homme ou faire de la médical, de la santé globale et de la santé tropicale, c'est devenu quelque chose de valorisé. Bon, et ça, c'est intéressant pour comprendre pourquoi il y a autant d'intérêt pour ces lieux. Donc vous montrez tous le fait que c'est à la fois dans les questions de participation et là que ces intermédiaires ont des caractéristiques distinctives. Donc c'est intéressant en soi. C'est intéressant en soi, mais ça, on peut aller un tout petit peu plus loin, me semble-t-il, surtout dans le papier sur le Maroc, que je trouvais, vous dressez des portraits vraiment très précis des personnes qui prennent part à cette INDH. Et on voit quelques profils se détacher, le diplômé chômeur, le fonctionnaire, il y a beaucoup de fonctionnaires, et puis il y a des anciens militants de gauche. Et en fait, ça me faisait penser à un papier d'Irénée Bonneau, qui avait été publiée dans Politique africaine, où elle montrait qu'en fait, ces profils-là, ils n'étaient pas là par hasard. Bien sûr, c'est des gens qui ont plus de diplômes, plus de compétences, plus de savoir-faire, mais c'est aussi parce que c'est un moyen, finalement, pour l'État de recontrôler ces catégories-là, diplômés chômeurs, activistes de gauche, qui auraient des tentations à l'expression de contestation. Et donc, cette INDH, il était aussi un instrument de domination dans ces quartiers. Voilà, donc au-delà de l'élite, enfin, que ce soit une élite, il y avait aussi peut-être qu'on peut aller regarder ce que ça fait finalement en termes de contrôle et de rapport de domination dans le pays. Peut-être vraiment dernier point, bon, j'avais des questions spécifiques, mais bon, c'est pas grave, on pourra en parler après. Je voulais juste insister sur un dernier point sur lequel vous avez insisté, c'est celui de la concurrence entre les modèles, qui est un point intéressant à regarder quand on s'intéresse à ces circulations. Dans votre cas, la concurrence entre les modèles, elle apporte particulièrement de la confusion, puisqu'on ne sait plus comment gérer le budget selon que c'est de l'argent donné par le FID ou l'AFD. Mais cette concurrence entre modèles, elle est aussi un levier extrêmement fort pour les administratifs, les fonctionnaires, voire même les personnels politiques pour jouer entre ces différents intervenants. Je m'arrête là.
D'accord. Ce que je vous propose, parce que comme il est l'admis un quart d'heure, c'est peut-être comme il y avait beaucoup de remarques et de propositions plutôt que des questions de la part de Marie-Emmanuelle Pamoir, c'est de faire un tour de table au niveau du public et puis chacun d'entre vous, je vous redonnerai la parole, soit pour réagir sur ce qu'a introduit Marie-Emmanuelle ou bien sur les questions dans le public. Alors, est-ce que, en dépit de cette heure un peu tard, qui assomme tout le monde, est-ce qu'il y a toutefois des questions par rapport aux quatre interventions que nous ont proposé les intervenants? Aucune. Donc je vais m'auto-attribuer la parole, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un deuxième discutant. Pour le coup, les bibliothèques circulent bien entre Marie-Emmanuelle et moi-même, donc je vais essayer plutôt d'accentuer sur des choses peut-être qui n'ont pas été dites. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que dans les quatre communications, vous étiez beaucoup soit sur les textes, alors que ce soit juridique, normatif, les termes de référence, les appels à projets, les programmes, etc., ou tous les discours qui sont produits sur ces nouvelles normes, sur ces nouveaux catéchismes, si je reprenais un terme de Béatrice Hibou, par rapport donc, à la bonne gouvernance, la participation, le développement par le bas, etc. Je suis restée un peu sur ma faim sur ce que sont réellement derrière ces discours, cette rhétorique. D'une part, quels sont les processus d'apprentissage et de socialisation
parce que la rhétorique, elle nécessite une maîtrise du langage du développement ou du langage des institutions internationales. Et si vous pouviez nous donner un petit peu de biscuit, de ce que vous avez pu observer avec vos invités, ça me semble tout à fait intéressant. Et de ce point de vue-là, confronter le discours un peu plus à ce que sont les pratiques ou les routines et aller au-delà un peu du discours. Alors peut-être aussi, on peut mobiliser les outils que nous offre Goffman sur la question des coulisses, enfin de la scène, des coulisses, quelles sont les façades institutionnelles, les routines qui permettent de faire tenir certaines normes ou pratiques. Donc ça m'intéresse assez de vous entendre là-dessus. Ensuite, sur la question de la réappropriation justement locale, à la fois par les États, par les acteurs eux-mêmes, on voit bien qu'en dépit de ces prêt-à-porter réformistes, développementistes, etc., il y a, vous l'avez dit, une hybridation, une transformation. Il n'y a pas de transfert sans bricolage et sans domestication de ces agendas. Mais du coup, on avait peut-être aussi un peu, forcément il y a peu de temps, donc une idée que vous aviez des acteurs un peu capturés lorsqu'ils se décidaient en dehors, et ces acteurs ne viennent pas de nulle part. Et là encore, vous entendre un peu plus comme vous y invitez à le faire, Marie-Emmanuel, sur la sociographie des acteurs. C'est qui concrètement les gens que vous avez étudiés derrière le mot d'élite ou derrière. C'est pas n'importe qui ou derrière l'école d'Harvard qui rencontre le personnel le plus médical ou les fonctionnaires. Voilà, qui sont ces acteurs qui bien souvent circulent eux-mêmes dans les catégories que tu proposais, Patrice. Je sais pas, le fonctionnaire à un moment donné il peut être dirigeant d'une ONG et puis il peut repasser dans une agence paritétique type AGEDIP et puis. Donc là aussi, comment l'international ou ces programmes sont une séquence ou une étape dans des carrières militantes entendues au sens large et professionnelles, les deux étant, ils sont sur les terrains africains extrêmement imbriqués et chevauchés et peut-être pas si facilement. Si facilement définissables de manière séparée, suffisamment isolable. Voilà. Juste
quelques points, donc
je
ne
sais pas qui se sent plus inspiré
pour.
Du coup, je vous redonne la parole. Qui se sent plus inspiré pour. Oui, il y a comment ?
Bon, on dit généralement les juristes
aiment parler. D'accord. Oui, vous avez d'ailleurs bénéficié de mon laxisme, puisque vous êtes passé en dernier, et que vous avez parlé plus que tout le monde.
Alors.
En laxisme, mais je. Oui. Enfin, je
Je vais répondre effectivement sur deux questions que vous avez, au moins deux remarques que vous avez évoquées, effectivement, qui, de mon point de vue, m'intéressent directement à la communication. La première, c'est la question qu'est-ce qui circule, effectivement. Alors, vous avez parlé du fait que c'est des normes un peu plus contraignantes. Effectivement, c'est ça. Parce que, alors, ça m'invite peut-être à aller dans des grands développements auxquels je voulais pas y aller. La question de la gestion de l'aide, de la gestion budgétaire et financière, c'est une question qui touche à la souveraineté des États. Donc, du coup, sachant que l'aide au développement, c'est pour vie un organisme d'État extérieur, alors, est-ce qu'un État est prêt à accepter qu'on lui impose des normes de gestion? C'est quand même, je ne sais pas si vous suivez les débats qui se passent en France avec les agences de notation, les journalistes en parle, sûrement avec les commentaires déviés, mais c'est une question sensible pour les États. Voilà, parce que ça touche à la définition. Alors, être dirigeant, gouverner un pays, c'est quoi? C'est être capable de décider. C'est être capable de décider, de mener la politique qu'on veut. Alors que là, c'est les normes de gestion qui sont définis souvent par des organismes extérieurs. Alors, voilà pourquoi pendant longtemps, la question. En fait, Le travail est un peu compliqué parce que c'est beaucoup plus de l'analyse, de papier, comme ça, cela se fait en droit, mais on ne peut pas avoir un avis des institutions financières internationales là-dessus. Je connais des gens qui sont allés à Washington, au siège de la Banque mondiale ou de l'FMI, depuis les années 90, avec ce qu'on appelait l'échec du programme d'ajustement structurel, c'est la politique de la confidentialité. Seuls les États ont accès aux documents, aux informations, tout, tout, tout. Donc, si vous voulez, effectivement, c'est ça. C'est comme s'il s'agissait du droit, du soft law, du droit mou. Mais en réalité, les États sont presque obligés de s'y conformer. Parce que sinon, vous n'allez pas bénéficier des tranches de financement qui sont promises. Et les institutions financières, donc, c'est ce qu'on appelle les bons élèves, c'est-à-dire qui respectent les mesures qui sont préconisées. Donc, effectivement, la question du. Effectivement, c'est un droit d'un point de vue de sa forme, c'est pas contraire, puisque c'est des manuels, c'est des résolutions, mais c'est pas du droit contraire. Ça ne s'impose pas directement aux États. Mais sachant qu'ils sont presque obligés de s'y conformer dans la pratique, sinon ils ne peuvent pas bénéficier des tranches de financement qui sont promues. Donc, de ce point de vue, effectivement, la question de qu'est-ce qui circule, effectivement, ça pose un réel problème. Alors, et aussi par rapport à la quatrième idée que vous avez montrée, la question de la concurrence entre les modèles, je n'ai pas eu le temps de rappeler dans les détails, mais effectivement, dans le cas des États africains, c'est ce qui s'est passé. Pendant une décennie, depuis la fin des années 90, jusqu'en 2009, donc, je parlais, les États ont expérimenté ces modèles qui sont un peu préconisés par les institutions financières internationales à travers la technique de budget programme, la technique des cadres de dépenses à moyen terme. C'est des instruments qui sont presque imposés par les institutions dès le développement. Ils ont expérimenté ces techniques parallèlement à la loi des finances, qui est le document officiel de la gestion budgétaire, par rapport au modèle classique qui existait, par rapport au modèle qui existait tel qu'il est inspiré par le droit français. Donc effectivement, il y a eu un problème de concurrence des modèles. Et même jusqu'à présent, il y a un problème de transposition, de passage, de transition, de passage du modèle antérieur au nouveau modèle. Donc effectivement, la question de la concurrence est posée. Bon.
Non, il y avait une chose que je voulais dire, mais peut-être si c'est fini,
c'est bon. Non, juste pour répondre, deux petites dernières questions. C'est la question de confronter les discours à la pratique, effectivement. Alors, pour le cas de l'aide au développement et de la gestion des finances publiques, effectivement, il y a un décalage entre le modèle tel qu'il est préconisé et le modèle tel qu'il est appliqué. Et bon, en fait, en réalité, ma thèse, en fait, c'est ça. La thèse, mon travail de thèse, je travaille sur ça, sur le passage dans le cas des États africains étudiés, le passage du modèle classique à ce nouveau modèle.
Non, oui, là, je voulais réagir, mais comme tu as mentionné le Botswana, c'est vrai que. Deux choses. Déjà, pour l'anecdote, le Botswana est un des rares pays qui n'a pas eu à mettre en place le problème de gestion structurelle, ce qui est quand même suffisamment remarquable pour être noté, et puis du coup, qui est intéressant quand on voit comment aujourd'hui, il est cité en exemple, on a envie de dire, bah oui, mais aussi, c'est vrai qu'il n'a pas eu à mettre de gros ajustements structurels, donc il a pu continuer, disons, à développer, à investir dans son système de santé publique. Éducatif, enfin, les programmes de logement, et c'est assez remarquable pour un certain nombre de choses. En même temps, après, sur le Botswana, se pose aussi la question de la construction d'une exception, qui m'a aussi pas mal occupée dans ma thèse, puis que j'ai du coup assez volontairement contournée, parce que justement, ça serait partir trop d'un discours. En plus, où chacun rajoute sa couche d'exception botswanaise, etc. Et donc, qui était au début hein, un peu une question que je me posais au début de ma thèse, que j'ai essayé de contourner justement en essayant de me dire bon, de toute façon, ce sera confronté aux pratiques. Et en fait, les pratiques, à les observer, ben, ça fait émerger toute une série d'autres enjeux dans lesquelles, du coup, l'exception, en fait, elle apporte pas grand-chose, en fait. Voilà, pour comprendre ce qui se passe. Donc, je ne sais pas sur quoi je pourrais réagir d'autre. Non, peut-être juste l'historicisation. Bah oui, ça, c'est vrai que moi, c'est un effort qui m'a été vraiment utile à plein de moments de la thèse, et puis aussi parce que en fait cette approche généalogique elle permet à la fois de regarder la sociologie des acteurs. Après on se pose des questions d'accès aux données, hein. Là à Harvard, je crois que j'ai eu pas mal de chance d'avoir des entretiens avec des chercheurs de Harvard et puis les médecins sur place, etc. Mais je veux dire, c'est quand même pas très évident d'accéder à ces gens-là et puis de leur faire dire des choses un peu profondes, quoi. Donc se pose toutes ces questions et puis non mais voilà, je sais pas s'il y a une question. Il y a une sur les bibliothèques. Oui, c'est drôle parce qu'en fait dans d'autres parties de ma thèse, il y a une bibliothèque plus politiste et notamment en termes d'action publique et de qui est présente, mais là c'est vrai qu'elle a tellement disparu.
Par rapport à la question de qu'est-ce qu'il y a derrière les discours sur le concept, la participation citoyenne, la bonne gouvernance, etc., je pense que pour le cas du Maroc, le pouvoir public adopte ces concepts pour faire plaisir aux bailleurs de fonds, notamment à l'Union européenne, qui insistent sur l'obligation de faire participer les citoyens dans les projets qui visent à contre la pauvreté. Et je pense que la question qui se pose, est-ce que l'environnement démocratique ou le système politique marocain est compatible avec ces concepts? Je pense que c'est ça la question qu'il faut creuser, qu'il faut poser.
Oui, comment un régime autoritaire,
quand
bien même cet autoritarisme.
Voilà. Il y a des concepts qui sont apportés dans un environnement démocratique, mais on est dans un environnement qui est en cours de la démocratie. Donc c'est, en fait, ça touche le système politique adopté dans le grand pays.
L'international comme une étape dans la carrière de certains acteurs, moi je dirais dans mon terrain que oui, parce que j'ai vu pas mal de cas de personnes qui sont devenues aujourd'hui conseillers municipaux, mais avant ils étaient dans des ONG et c'est comme ça que ils se sont fait connaître, et c'est de ces ONG qui sont passés à conseillers municipaux. Pour certains, ils sont passés de ces ONG, donc de la gestion de ces fonds qui viennent de l'extérieur, ils sont passés de là à conseillers dans des agences bilatérales de coopération, à l'AFP ou à la coopération suisse. Donc je pense que par rapport à ça, moi en tout cas, dans ce que j'ai vu, l'international sert de tremplin parfois comme dans le processus d'une carrière. Et par rapport à la rhétorique, est-ce que, à partir de quel indicateur ou de quel élément on peut montrer sur le terrain qu'il y a une certaine maîtrise ou une appropriation de ce discours sur la participation? Il faut regarder simplement le fait que la plupart de ce qu'on appelait des associations sportives et culturelles, donc les ASC, dans le cas de Dakar et même du Mali, donc qui organisaient des compétitions pendant la période hivernale qu'on appelle les Naveta, sont devenus aujourd'hui, pour certains, en tout cas les leaders de ces regroupements, ça devient aujourd'hui association, ça va s'appeler association de développement de tel quartier, association des femmes, association pour la promotion des femmes, ou bien conseil des jeunes. Voilà, donc autrement dit, à travers la nomenclature de ces nouveaux regroupements, on sent une certaine maîtrise des attentes des bailleurs de fonds qui, eux, quand ils veulent investir, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est du développement. Donc il y a une intégration de ces concepts dans les nouvelles associations qui émergent.
Et en même temps, on revient à la fracture
singularité des mécanismes d'appropriation, parce que dans le cas du Maroc, c'est plutôt la forme organisationnelle association qui est la plus foisonnante, alors que côté Sénégal, vous connaissez mieux, vous m'avez dit un peu plus, c'est plutôt GIE, groupement d'intérêt économique, qui viennent aussi à des formes d'opportunités locales. Les lois sur les GIE ont été promues par Abdou Diouf, et donc on voit bien que certes, il y a un même appel à un système participatif, mais localement, des habitudes, enfin, des opportunités juridiques, législatives, tout ça, parce que c'est plus facile de créer un GIE qu'une ONG ou une association. Et on voit bien comment, dans les deux cas, la Maroc et le Sénégal, chaque contexte local offre des formes singulières par rapport à ces enjeux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si tout le monde est difficilement muet. Très bien, je remercie l'ensemble des participants, Mme Fidiata, M. Sassan, M. Nardi, Fanny Chabrol, Fidiata et Fabio, et également ce riche panel. Je propose de prendre un dernier verre dans la salle où il y avait la pause café, donc au deuxième étage, 123. Pour ceux qui auraient un autre agenda, on se retrouve demain. Alors ce sera au centre Panthéon, je commencerai par la 12e Panthéon, juste en face du monument. Les stages sont indiqués sur le programme, vous pouvez prendre un programme à l'accueil en sortant. Si vous cherchez des stages, ce sera les choses et des stages en sous-sol. Donc vous ne pouvez pas chercher des stages en sous-sol. Et on se retrouve donc demain.
Je peux les éteindre quand j'appuie sur ça.
Ouais. Sur celui-là, ouais, comme ça au moins il n'y a pas de. C'est un tout seul, le tien, je sais pas, c'est à toi, ça. Ouais, moi c'est pareil que toi. T'appuies là, et puis après, t'appuies là. Attends.
Ah, stop, non.